Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
1 Corinthiens chapitre 13. Nous revenons à ce chapitre merveilleux dans lequel nous avons étudié les qualités de l'amour. Nous avons tous été vraiment bénis par cette étude, particulièrement moi-même. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont partagé votre bénédiction avec moi au sujet du chapitre, et cela se poursuivra ce matin, je l'espère, au moment où nous entamons de nouveau les versets 4 à 7. Et nous ne terminerons pas tout, mais nous ferons quelques pas au-delà de notre position de la fois précédente. Le 13e chapitre de 1 Corinthiens est un portrait de l'amour et apparaît comme un portrait de Jésus-Christ parce qu'il est amour. Et j'ai pensé au fait qu'il s'agisse d'un portrait de Christ, et que la seule chose que Jésus-Christ souhaite, c'est que son Église fasse l'objet de nombreuses réimpressions. Il voudrait reproduire son portrait en nous. Ainsi, alors que nous examinons le chapitre 13, en particulier les versets 4 à 7, qui traitent des qualités de l'amour, et que nous y voyons le portrait du Christ, il nous regarde pour voir si ce portrait est effectivement réimprimé et reproduit en nous. Maintenant, l'apôtre Paul montre aux Corinthiens ce qu'est l'amour. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, l'amour, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas définir philosophiquement. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas définir idéologiquement. C'est quelque chose que vous ne pouvez décrire que dans ses fonctions. Vous ne définissez pas l'amour, vous le décrivez en action. Et tout cela, des versets 4 à 7, sont des verbes décrivant la manière dont l'amour agit, plutôt que des adjectifs décrivant l'amour dans les termes d'une définition. Et ici, Paul nous donne ce qui doit être bibliquement la description la plus grande, la plus vaste et la plus large de l'amour qui n'ait jamais été écrite par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est extrêmement et intensément pratique, et même s'il s'agit d'un portrait de Jésus-Christ, ce qui lui confère une caractéristique exaltée, c'est en même temps une présentation active qui reflète ce que le Christ veut reproduire en nous pour notre vie quotidienne. Maintenant, plus loin, nous avons appris tout comme une autre pensée préliminaire. Nous avons compris que Paul présentait un portrait de l'amour contrastant avec le comportement des Corinthiens de l'époque. Ils sont le contraire de tout cela. Ils ont besoin d'entendre ce qu'est l'amour, parce qu'ils n'ont pas d'amour. Et tout cela est présenté en opposition avec ce qu'ils sont. Et j'ai bien peur, contre ce que nous sommes très souvent. Et ce que Paul dit, c'est ceci. L'amour est très patient. À partir du verset 4. Il dit qu'il souffre longtemps, mais ce qu'il dit, c'est que l'amour est très patient, mais que nous sommes surtout impatients. Et puis il dit, l'amour est plein de bonté, mais nous sommes souvent mauvais et méchants. L'amour ne connaît pas la jalousie. Et dans le contexte, il montre que nous sommes jaloux très souvent. L'amour ne se vante point, mais nous sommes fiers. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, mais nous sommes souvent impolis et mal élevés. L'amour ne cherche point son propre intérêt. Mais nous sommes principalement égocentriques. L'amour ne s'irrite jamais, mais nous sommes très souvent colériques. L'amour ne soupçonne point le mal, mais il semble que nous cherchions des torts et des injustices, et que nous en prenions note. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais nous prenons souvent un plaisir secret dans l'échec de quelqu'un d'autre. L'amour se réjouit de la vérité, mais nous sommes souvent critiques. Maintenant, c'est vraiment l'approche qu'il adopte. Il donne tous les éléments positifs de l'amour contre les aspects négatifs de l'assemblée corinthienne. Et les Corinthiens ne sont pas meilleurs que nous. Et nous voyons donc tous les opposés de ces choses en nous-mêmes. L'homme a été créé à l'image de Dieu, et l'amour lui appartenait. Tous ses attributs lui appartiennent. Mais quand la chute est arrivée, c'était perdu. Lorsque l'image de Dieu a été ternie, l'amour l'a été. Et ainsi l'homme est sans amour. L'homme non régénéré n'a pas d'amour. Et l'homme chrétien, fonctionnant dans la chair, n'a pas d'amour. Et ainsi, Paul détaille ce que l'amour devrait être. Et comme nous l'avons vu dans la deuxième section du chapitre, ce que nous appelons les perfections de l'amour, des versets 4 à 7. Nous avons dit qu'il y avait 15 qualités de l'amour en action, et nous avons commencé à les examiner. Paul a parlé dans les 3 premiers versets de l'importance de l'amour, et maintenant, il décrit les perfections de l'amour. Il énumère ces 15 qualités de l'amour. Elles sont très pratiques, très simples, nécessaires pour le croyant. Nous avons examiné les 3 premières la dernière fois. Vous souvenez-vous, verset 4, l'amour est patient. Et nous avons dit que cela signifie littéralement aimer les autres avec patience. Il n'y a pas d'esprit de représailles. C'est absolument et totalement indulgent. Deuxièmement, nous nous sommes souvenus que l'amour est bienveillant, et le mot littéral qui y est utilisé est utile. L'amour est utile. En d'autres termes, l'amour s'utilise pour aider les autres. C'est bienveillant. Troisièmement, nous avons appris que l'amour n'envie pas. L'envie, disions-nous, c'est deux choses, superficiellement. Il souhaite avoir ce que quelqu'un d'autre possède. Et plus profondément, il souhaite que quelqu'un d'autre ne l'ait pas. Cela vient littéralement d'un mot qui signifie bouillir. Et c'est l'ébullition intérieure qui intervient lorsque vous voulez ce que les autres possèdent, au point où vous souhaiteriez qu'il ne l'ait pas. Et maintenant, nous arrivons au quatrième point, la prochaine des qualités de l'amour, celle que nous voulons traiter en premier ce matin. L'amour ne se vante point. Il y a un moyen plus facile de comprendre cela. Vous remarquerez qu'elle est suivie d'une autre déclaration, « ne s'enfle pas d'orgueil ». Celles-ci peuvent sembler être des synonymes ou des parallèles, mais ce n'est pas le cas. Il y a une différence. La première déclaration représente la verbalisation de l'orgueil, le discours d'orgueil réel, l'action réelle de l'orgueil. La seconde, l'attitude de fierté, la vanité qui est un intérieur. Le mot qui nous dit que l'amour ne se vante point vient littéralement d'un mot qui pointe vers une racine, qui signifie « moulin à parole ». Maintenant, le mot est le suivant. C'est juste la verbalisation, le moulin à parole, l'air chaud, qui sort de la bouche d'une personne fière et vaniteuse. Incidemment, c'est un mot unique en ce sens qu'il n'est utilisé que dans ce verset du Nouveau Testament. L'amour n'est pas un moulin à parole. L'amour ne tire pas toujours de sa bouche ses propres réalisations. L'amour n'est pas un bavardage arrogant et sans fondement qui est conçu pour me rendre meilleur que vous. Vous savez, être un fanfaron. Et nous avons tous souffert de cela. Je veux dire que je ne parle pas strictement hors du contexte biblique. Je l'ai vécu dans ma vie, et la fierté est un problème pour moi. Et ce genre de problème de vantardise est autant une tentation pour moi, j'en suis sûr, voire plus que pour d'autres personnes. Et donc, ce que je vous dis vient de l'intérieur de moi, ainsi que de l'Écriture. Mais se vanter est un effort, vraiment, pour que les autres se sentent mal à propos de ce que vous êtes ou avez, de sorte que ce soit le revers de l'envie. Notez au verset 4 qu'il dit « L'amour n'est point envieux », puis le retourne pour dire que l'amour ne se vante point. L'envie, c'est vouloir quelque chose que les autres ont, et se vanter fait que les autres veulent ce que vous avez. Maintenant, vous savez comment cela marche. Quelqu'un raconte une merveilleuse histoire d'accomplissement, et vous écoutez, et vous mourrez jusqu'à ce qu'ils aient terminé, afin que vous puissiez dire « Si vous pensez que c'est quelque chose, laissez-moi vous raconter ce que j'ai fait. » Et vous partez. Et un troisième groupe fait écho, et à ce moment-là, vous ne vous intéressez plus du tout. Mais l'idée de se vanter est de faire en sorte que quelqu'un d'autre ressente que vous êtes supérieur à lui. Et croyez-moi, c'est le contraire, car l'amour veut que l'autre se sente supérieur. Je prendrai le rôle de serviteur. L'amour ne se vante jamais. L'amour ne fait pas d'éloge, et voyons les choses en face. Personne n'aime vraiment les personnes comme cela, parce qu'ils sont sans amour. Vous savez, quand vous avez quelqu'un autour de vous comme cela, vous ne voulez pas communier avec eux, vous voulez partir, ou vous souhaitez qu'ils le fassent. Vous savez, le problème corinthien à ce stade était qu'il s'agissait d'une série de démonstrations spirituelles, c'est vrai. Ils étaient totalement inconsidérés les uns des autres. Ils luttaient constamment pour attirer l'attention du public, tout le monde se disputant le pouvoir. À notre connaissance, il n'y a pas une seule mention dans la lettre corinthienne d'un ancien. Il n'avait même pas de chef. À notre connaissance, personne n'était responsable. Enfin, Paul a dit, « Voulez-vous dire au prophète de faire quelque chose à ce sujet ? Nous ne savons même pas de quel type d'organisation il s'agissait, mais c'était un chaos absolu. Laissez-moi vous montrer 1 Corinthiens 14, 26. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Quel genre de chaos est-ce? Si ce matin, tous ceux qui avaient le don d'enseigner décidaient tout à coup de commencer à enseigner, ils se levaient tout simplement pour dire « J'ai quelques remarques à faire, j'ai quelque chose à dire ». Puis certains décidaient de chanter un solo. Alors nous écoutons quatre ou cinq solos. Quelqu'un commençait un charabia extatique. Quelques personnes criaient des interprétations aux personnes parlant du charabia. Et ce serait typique d'une assemblée corinthienne. Un incroyant viendrait et penserait qu'ils étaient vraiment cinglés. Et il aurait raison. Vous savez, nous avons un problème dans l'Église parce qu'il y a des personnes qui aiment faire beaucoup de choses. Le docteur Criswell a eu une excellente idée. Il a dit qu'il y a tellement de personnes dans son église qui veulent chanter des solos qu'il n'y a que deux façons de le faire. Faites-les chanter tous en même temps, ou ce qu'ils ont finalement décidé de faire deux fois par an, organisez une nuit de témoignage, et tous ceux qui veulent chanter un solo s'alignent, et ils défilent toute la soirée. Tout le monde chante un couplet de son cantique, et il dit que tout se fait en une soirée. Mais dans l'église corinthienne, c'était un cas où tout le monde se donnait en spectacle spirituel. Et tout le monde voulait faire sa chose. Et alors, il y avait des vantardises, cherchant constamment à attirer l'attention du public. Vous savez, se vanter est vraiment destiné à blesser les autres. Je ne sais pas si vous le savez, mais réfléchissez-y, vous le savez bien. Il est conçu pour blesser quelqu'un d'autre. Il est conçu pour vous démarquer et leur donner un aspect inférieur. C'est facile à faire. Vous savez, je suis tenté parfois, et je dois faire très attention à ce sujet. Parce que c'est très facile, parfois, lorsque je vais parler à certaines personnes, surtout si ce sont des pasteurs, vous savez, ces chers hommes de Dieu, qui servent fidèlement le Seigneur. Et quelqu'un vient comme moi, ou quelqu'un d'autre à qui Dieu a donné le privilège très inhabituel de pouvoir être pasteur d'une église très grande et très complexe, avec de nombreux ministères. Et ces pauvres personnes se sentent déjà un peu comme en échec, parce qu'il y a tellement de propagande autour de nous aujourd'hui que si ce n'est pas grand, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de plus grand mensonge dans le monde que cela. Je veux dire, si c'est, vous savez ce que le succès prouve, le succès, point final, rien d'autre. Il y a des choses impies qui sont grandes. Vous savez, vous dites, « Oh, vous avez 4000 personnes dans l'église. » Ouais, j'étais au Colisée hier, et 92 000 personnes regardaient des personnes courir avec un morceau de cochon. Grand peut dire n'importe quoi, ne rien dire du tout. Mais c'est parfois très facile lorsque vous êtes dans une situation pareille. Vous avez la tentation de faire en sorte que les autres se sentent inférieurs à vous. Et nous avons tous un moment dans notre vie où nous pouvons faire cela, car presque tout le monde a au moins une chose qu'ils font assez bien. Quoi que ce soit, vous le trouverez et vous le laisserez savoir à quelques personnes. Et vous savez ce qui se passe. Ce n'est rien d'autre qu'un égocentrisme aveuglant. C'est le désir de faire envie à quelqu'un d'autre. C'est un péché. Parce que c'est une mauvaise chose, c'est un double péché, parce que cela rend jaloux quelqu'un d'autre. Vous avez fait trébucher votre frère. Il n'y a pas de place pour se vanter. Je me souviens que lorsque j'étais en première année de séminaire et que j'essayais d'orienter ma vie, je me suis procuré un livre de Trumbull sur certains principes de l'évangélisation. Et il a dit ceci, et je ne l'ai jamais oublié. Je ne l'ai lu qu'une fois, et cela m'a accompagné tout au long de ces années. Mais il a dit dans ce livre, « J'ai fait un vœu à Dieu, qui a changé ma vie. Je voulais donc savoir de quoi il s'agissait. J'ai continué à lire, et il dit, « Voici le vœu. » Il dit, « Dieu, si tu me donnes la force chaque fois que j'ai l'occasion de présenter le sujet de conversation, ce sera toujours au sujet de Jésus-Christ. Écoutez, quand vous et moi ouvrons la bouche, qui cela devrait être? Jésus-Christ, pas nous. Vous apprenez à faire cela, et vous éviterez de toujours parler de vous. Vous savez, vous entendez des personnes, j'entends même des pasteurs, des animateurs de radio, et des personnalités de la télévision, etc., qui sont chrétiens, et ne font que parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont accompli, et c'est très intimidant. C.S. Lewis a dit, et je pense qu'il avait raison, il a dit, le mal le plus extrême, c'est le plus grand péché, c'est le vice essentiel, c'est le vice qui est l'essence même de l'homme. Il n'y a pas de place pour cela. Et vous savez, si vous regardez le modèle de Jésus-Christ, si quelqu'un avait quelque chose à vanter, c'est lui. Mais il ne l'a jamais fait. C'est incroyable, si vous étudiez l'évangile de Jean dans le livre qui présente sa divinité. Combien de fois il recule et renonce à presque tout. Écoutez ce qu'il dit dans Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Maintenant écoutez cela. Combien d'entre nous peuvent dire cela? Combien d'entre nous peuvent venir à la fin d'une journée et dire « Mon Dieu, je n'ai pas parlé de moi. Ce devrait être ce que nous faisons. » Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Seul l'amour peut nous éviter de faire étalage de nos connaissances, d'afficher nos capacités, d'afficher notre éducation, d'afficher nos dons, ou de nous montrer nous-mêmes, de sorte que nous devenions vraiment des imbéciles. Quand le fait est connu, nous ne sommes rien. Maintenant, derrière la vantardise, regardez encore le verset 4. Derrière la vantardise se cache la racine. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour n'est pas vaniteux. Je vous ai dit la dernière fois que je vous avais rappelé le grand compositeur qui a écrit l'opéra Mascagni et se l'est dédié. Eh bien, j'ai noté sa dédicace. C'est écrit dans l'opéra, à moi-même, avec une estime distinguée et une satisfaction inaltérable. Je vous le dis, c'est un commentaire sur la misère de l'âme de l'homme. Vous savez, ici, cela va plus loin que la bouche. Vous avez la vantardise, le vent chaud, le parler pour être vu. Et ensuite, vous avez la vanité profonde. Et quand Paul a dit aux Corinthiens, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, il leur disait réellement qu'ils n'avaient pas d'amour parce que, croyez-moi, ils s'enflaient. Ils se sont vus comme des héros spirituels. Ils étaient arrivés. Et c'était tellement facile d'avoir cette attitude. Ils pensaient ainsi à propos de leur doctrine, qu'ils avaient toutes les réponses. Au chapitre 4 et au verset, je pense que c'est le verset 18, il est écrit « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Pourquoi Paul viendrait-il ici? Nous avons tout. Nous avons tout. Nous n'avons rien à lui dire. Nous avons eu Paul. Nous avons eu Apollos. Et nous avons eu Cephas. Et tous ces professeurs. Et de quoi avons-nous besoin? Eh bien, il ne se présentera jamais ici. Ils sont enflés de leur savoir et de leur prétendu état spirituel. Écoutez le chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Autrement dit, je me sers de moi-même et d'Apollos à titre d'illustration, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il dit, vous feriez mieux de faire une évaluation biblique de vous-même et de ne pas aller plus loin. En tout cas, il pourrait s'enfler, se sentir spirituellement supérieur, intellectuellement supérieur, physiquement supérieur, n'importe quoi. Au verset 7, il dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qui? C'est Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu, malgré le fait que tu n'as pas à t'enorgueillir, malgré le fait que tu l'aies reçu en don de Dieu, malgré le fait que c'est Dieu qui te distingue? Tu penses toujours à quelque chose de plus élevé que la réalité. » Et il devient sarcastique au verset 8 et dit, « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner comme des rois. Vous pensez quelque chose de bien, quelque chose de surélevé ? » Vous voyez, il parle d'une façon sarcastique. Et puis il dit, « Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous ?» Et ensuite il dit, « Car Dieu, ça me semble, a fait de nous apôtres. » Et il devient très sarcastique en disant, « Les derniers des hommes. » Verset 10, « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. » Ici, ils se vantaient de leur prétendu état spirituel, et le fait qu'ils vivaient d'une façon totalement charnelle. Regardez le chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la pornoïa. D'où provient la pornographie, le mot qui désigne le péché sexuel, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, l'inceste. Et quelle est votre attitude? Verset 2. Vous êtes quoi? Enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Les Corinthiens machos, regardez le chapitre 8, verset 1. Maintenant, en tant qu'idole, ou des choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Nous comprenons tous la réalité de la viande offerte aux idoles. La connaissance s'enfle d'orgueil, l'amour se construit. Ils se sont enflés d'orgueil de leur savoir biblique. Ils se sont enflés d'orgueil de leur accomplissement sexuel. Ils se sont enflés d'orgueil de leur statut spirituel supposé. Ils se sont enflés d'orgueil à propos de certains enseignants qu'ils ont suivis. Ils étaient égoïstes et pensaient à leurs dons spirituels. Ils les utilisaient pour dominer les autres. Ils avaient cette arrogance intérieure qui donnait naissance à une bouche d'air chaud. Et vous en avez eu toute une congrégation. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Vous savez pourquoi? Parce que la vanité dit « Je suis meilleur que vous » et que l'amour dit le contraire, n'est-ce pas? La vanité dit « Je veux que tout le monde sache tout sur moi » et l'amour dit « J'aimerais pouvoir tout savoir sur vous ». William Carré était l'un des plus grands missionnaires de tous les temps. Il était l'un des plus grands linguistes que le monde n'ait jamais vu, chrétien ou non. William Carré a traduit des parties de la Bible en pas moins de 34 langues différentes. Et William Carré a commencé sa vie en tant que cordonnier, réparateur de chaussures. Lorsqu'il est venu en Inde en tant que missionnaire, il a immédiatement été méprisé par tout le monde, car l'Inde était enfermée depuis des siècles dans un système de caste très, très strict, et il n'était pas du tout respecté, donc. Une fois, lors d'un dîner, un snob qui était là, j'entends dire que cela se produisait souvent lors d'un dîner, mais lors de ce dîner particulier, un snob était là, et il a eu l'idée d'humilier Carré, à cause de sa position dans la société, et pour que tous puissent entendre, il a dit « Je suppose, monsieur Carré, que vous avez déjà travaillé comme un fabricant de chaussures. »« Oh non, votre seigneurie, » a déclaré William Carré, « pas un fabricant de chaussures, mais seulement un réparateur de chaussures. Il ne prétend même pas fabriquer des chaussures, il les répare seulement. » Quelqu'un a dit « Les camions vides font plus de bruit. » Les proverbes nous le disent, et je ne vais même pas entrer dans une discussion approfondie à ce sujet. Mais les proverbes nous en disent long sur la fierté, et tout le reste. Laissez-moi vous lire certaines des choses qu'il dit. Vous n'avez pas besoin d'essayer de suivre. Mais Proverbe 8:13 dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, parce que c'est ce que le Seigneur déteste. » Proverbe 11:2 « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. » Chapitre 13, verset 10 « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. » C'est tellement vrai. Toute cette fierté ne fait jamais que susciter la controverse. Tout ce qu'il fait, c'est commencer des bagarres. L'humilité n'a pas encore commencé un combat. Les personnes modestes n'ont aucune raison de se disputer. Elles cèdent. Les personnes fières se battent, commencent des disputes. Proverbe 16:18 « L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. » Et cela montre que les personnes fières sont toujours les plus ignorantes de tous, parce que, dans leur fierté et leur maigreur, elles ne comprennent pas ce qui les attend. Et dans Proverbe 29:23, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Vous savez, l'amour n'a pas la grosse tête. L'amour a un grand cœur, vous voyez. Jean-Baptiste vient. Il est le héros. Il a été le grand prophète. Il est sorti dans le désert, et les multitudes viennent à lui jour après jour, une foule de personnes. Et il se lève un jour, et il regarde Jésus-Christ, et il dit « Il doit augmenter, et moi quoi? Je dois diminuer. Plus vite vous oubliez Jean-Baptiste, mieux ce sera. Maintenant, que voyez-vous dans tout cela? Vous voyez ceci. L'amour est le seul espoir pour les Corinthiens. C'est notre seul espoir. Un amour supérieur à l'éloquence, à la perspicacité spirituelle, à la connaissance, à la foi, à la charité et au martyr. Un amour qui est patient et qui est bon. L'amour est le seul pouvoir au monde qui puisse nous sauver de la stupide fanfaronnade, de la vantardise et de l'acceptation des ricanements de l'envie. L'amour ne rechigne pas. L'amour ne se vante jamais. Et sixièmement, passons à un autre. L'amour ne fait rien de grossier. C'est une chose tellement pratique. Le verbe ici signifie se comporter de manière inconvenante, de mauvaise manière, avec grossièreté. Vous dites « Cela semble être une simple petite affaire. » Vous voulez dire que tout est lié à l'agape, le grand concept de l'amour divin? Oui, écoutez bien. Les mauvaises manières et l'impolitesse disent « Je ne vous aime pas, parce que je me fiche de ce qui vous gêne ou vous blesse. Je ferai ce que je veux, que cela vous plaise ou non. » Quand j'étais petit, ma mère me disait tout le temps « Arrête de faire du bruit en buvant ta soupe. » Et je me disais « À qui cela importe que je fasse du bruit ?» Et puis une fois, j'ai mangé avec quelqu'un qui fait du bruit en mangeant sa soupe. Je n'ai pas particulièrement apprécié la mienne lorsqu'il buvait la sienne, et je me suis rendu compte que le fait de faire du bruit en mangeant ma soupe n'avait rien à voir avec la nécessité de garder mes vêtements propres, mais plutôt pour que d'autres personnes puissent profiter de leur temps à table. Parce que vous voyez, c'est une petite chose qui dit « Regardez, votre bonheur compte pour moi, alors je vais faire ce qui vous rend heureux. Savez-vous que j'ai connu un couple qui s'est marié, mais qui a obtenu une annulation parce qu'il était grossier avec sa femme ? Et c'est la chose la plus étrange que vous n'avez jamais entendue. Vous savez quoi ? Elle est allée au tribunal et a affirmé que c'est assez grossier à dire, mais je dois le dire. Il rôtait tout le temps. Vous dites, c'est une blague ? Ce n'est pas une blague. Je connaissais ces personnes. Et le juge a dit en substance, le juge a effectivement accordé une annulation pour le motif qu'il était évident que l'homme n'aimait pas la femme, ou il aurait été plus prévenant envers elle, au lieu de rôter tout le temps. Et elle a effectivement eu une annulation. Maintenant, pour certains d'entre vous qui cherchent un moyen de vous en sortir, le voici. Commencez à rôter. Et l'idée ici, c'est qu'il a un comportement indiscipliné. C'est une personne, un homme ou une femme, qui n'a pas la capacité de discipliner son comportement en pensant aux autres. Il est grossier, pas à sa place, dominateur et totalement égocentrique. Et cela, il n'existe pas de meilleure définition des Corinthiens. Ils étaient si impolis, par exemple, qu'ils venaient au festin d'amour et mangeaient toute leur nourriture avant ceux qui n'en avaient pas. Ils abusaient. Ils étaient comme des porcs quand il s'agissait de manger au festin d'amour. Leur comportement au repas du Seigneur était si grave qu'ils se saoulaient et prenaient quand même la coupe. Les femmes outrepassaient les limites de la bienséance féminine devant Dieu, et elles enlevaient leur voile et usurpaient le rôle d'un homme dans l'Église. Et Paul a dit « Vous n'agissez pas de la bonne manière, et la conduite indisciplinée et grossière glossolalie des Corinthiens était l'antithèse de l'amour. » Tout le monde criait, tout le monde parlait, tout le monde essayait de se faire connaître, et personne ne pensait aux autres. Et quand vous faites cela, il n'y a pas d'amour. L'amour n'est jamais impoli, car l'amour prend toujours en considération la façon dont il affecte son prochain. Notre cher Seigneur a été si formidable en personnifiant cela. Je veux juste vous rappeler un incident dans sa vie. Regardez Luc 7. C'est une belle chose, et c'est une situation où le Seigneur protège une dame de l'impolitesse. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Un pharisien nommé Simon demanda à Jésus de dîner chez lui. Il y avait d'autres personnes, et Jésus partit. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, sans aucun doute une prostituée, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, ce qui coûtait extrêmement cher. Elle est venue dans la maison où il mange. Ce devait être une situation intéressante. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Je vous le dis, c'est une belle chose, n'est-ce pas? Voici une prostituée qui pleure et essuie les pieds de Jésus et applique de la pommade. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même. Il a une petite conversation avec lui-même, un petit monologue ici. Si cet homme était prophète, n'a-t-il pas encore évalué le Christ? Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Maintenant, si ce type était réel, cela ne se produirait pas. Et Jésus lui répondit, « N'est-ce pas intéressant ? » Il n'a même jamais ouvert la bouche, et Jésus a répondu à sa pensée. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. » C'était hypocrite. Il n'avait même pas encore décidé s'il était maître ou pas. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il y a une chose sarcastique dans cette déclaration. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Quel est l'enseignement de l'histoire ? C'est juste pour nous montrer une chose très simple. Voici une femme qui est entrée dans une maison de pharisiens. La première réponse de ce pharisien aurait été grossière, aurait été arrogante, aurait été méprisante pour cette femme. « Que fais-tu ici, femme sale, vile et pécheresse ? Dors !» Et Jésus protégea la femme du mépris, de l'arrogance, de la grossièreté et de l'indifférence du pharisien. Jésus aimait la femme, Jésus pardonnait à la femme, et Jésus rachetait la femme. Et Barclay a raison quand il traduit la phrase ainsi. L'amour ne se comporte pas sans grâce. L'amour est miséricordieux. L'amour n'est jamais impoli. Et ce n'est pas seulement une question de savoir si vous êtes impoli avec un croyant. Mais l'amour n'est jamais impoli avec un incroyant. J'ai vu des chrétiens qui ne fument pas, qui étaient tellement impolis avec un non-croyant qui fumait. Ils n'auraient jamais eu l'occasion de communiquer quelque chose à propos de Christ. Vous savez, nous pouvons arriver à un endroit où nous avons toute la doctrine et toutes les réponses, et nous devenons des intellos théologiques, et nous perdons le sentiment de la grâce, nous perdons notre accueil chaleureux des personnes qui ne sont pas où nous sommes, et ce n'est pas juste. Nous pouvons fermer le monde entier à l'exception de notre petit groupe, de notre petit clan. Fermez la porte, nous quatre, pas plus. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de bonne manière, il y a simplement de l'impolitesse. Vous savez, une des choses pour lesquelles le christianisme doit souvent payer le prix, c'est pour la grossièreté envers les incroyants. Nous sommes souvent très impolis et irréfléchis envers les autres personnes. J'ai entendu un prédicateur la semaine dernière quand j'étais chez moi. J'ai écouté toutes les églises qui passent à la télévision la semaine dernière. Cet homme prêchait une tirade contre les impies, qui les envoyait d'un endroit à l'autre d'une manière totalement non biblique, les faisant devenir ce qu'ils n'étaient pas. Et je me suis dit, je n'ai jamais entendu un homme aussi impoli. C'était un pharisien qui aurait pris cette femme dans le livre de Luc pour la mettre à la porte. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Vous savez, l'amour n'est pas impoli, inconvenant. Il est bien de commencer à mettre cela en pratique à la maison. L'amour peut nous sauver du ricanement amer de l'envie et du ridicule fanfaron de l'avantardise. L'amour peut nous sauver de la tendance intérieure à être tellement gonflés par notre propre importance que nous sommes grossiers avec tout le monde et que nous avons tendance à nous comporter sans grâce, en méprisant les autres, sans tenir compte des sentiments des autres. Septièmement, je vais vous donner celui-ci. L'amour ne cherche point son propre intérêt. C'est probablement la clé de tout. L'amour ne cherche point son propre intérêt. C'est le contraire de l'amour de soi. L'amour n'est pas intéressé par ses propres désirs. L'amour s'intéresse aux souhaits de quelqu'un d'autre. Lenski, le grand commentateur, a dit ceci. « Guérissez l'égoïsme, et vous venez de replanter le jardin d'Éden. » Il a raison. Je dirais que dans le portrait de l'amour, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, sont les yeux. Ce sont les yeux altruistes. Les fenêtres de l'âme montrent que l'âme est désintéressée. Et les Corinthiens étaient égoïstes. Oh, ils étaient égoïstes. Ils étaient égoïstes dans leurs dons spirituels. Ils, vous savez quoi? En fait, si vous regardez le chapitre 14, verset 4, il leur parle de l'utilisation des dons des langues. Il dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Au verset 12, il dit, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, pas pour vous-même, même dans le domaine des dons spirituels, ce qui était bien. » Ils ont tout déformé pour en faire une chose égoïste. Au lieu d'utiliser leurs dons pour les autres, ils les utilisaient pour se construire. Mais l'amour est libre de cela. L'amour ne s'attarde jamais sur lui-même. Il y a quelques années, Fulton Ursler a raconté une histoire intéressante. Il a dit qu'un chauffeur en uniforme s'était rendu à un cimetière. Un pasteur prenait soin du cimetière et il est sorti pour s'approcher de la voiture. Le chauffeur est sorti de la voiture et lui a dit « La dame est trop malade pour marcher. Est-ce que cela vous dérangerait de venir avec moi ?» Dans la voiture, attendait une femme âgée et fragile, dont les yeux cernés ne pouvaient cacher une blessure profonde et durable. « Je suis Madame Untel, » dit-elle faiblement. « Chaque semaine, depuis 2 ans, je vous envoie un billet de $5 par la poste. »« Ah oui, pour les fleurs, se souvient-il ?»« Oui, à déposer sur la tombe de mon cher être. »« Je suis venue aujourd'hui, » confia-t-elle doucement, « parce que les médecins m'ont fait savoir qu'il ne me reste que quelques semaines à vivre. » Et de toute façon, il n'y a plus de raison à vivre, et donc j'ai voulu me rendre une dernière fois au cimetière. » Le pasteur cligna des yeux irrésolument, dit Ursler, puis avec un sourire très ironique, il dit « Vous savez, madame, je suis vraiment désolé que vous ayez continué à envoyer de l'argent pour les fleurs. Désolé ? Oui, parce que les fleurs durent très peu de temps et que de toute façon personne ne les voit. Savez-vous ce que vous dites ? Demanda-t-elle. « Oh oui, je le sais, vous voyez. » « J'appartiens à un groupe qui rend visite aux gens, » a-t-il déclaré. « Ils sont dans les hôpitaux publics, les asiles, et les personnes dans ces endroits aiment beaucoup les fleurs. Ils peuvent les voir et les sentir, madame. Il y a des personnes vivantes dans des endroits comme celui-là. » La femme s'assit en silence pendant un moment. Sans mot dire, elle fait signe au chauffeur de s'éloigner. Quelques mois plus tard, le pasteur s'étonna de recevoir une autre visite, encore plus étonné, parce que cette fois la femme conduisait la voiture. « Je porte des fleurs aux personnes moi-même, » dit-elle avec un sourire amical. « Aux hôpitaux. Vous aviez raison. Cela les rend heureux. Cela me rend heureuse. Et les médecins ne savent pas ce qui me fait du bien, mais moi je le sais. J'ai quelqu'un d'autre pour qui vivre. Je pense que Jésus disait quelque chose à ce sujet quand il a dit « Portez vos croix, fardeaux les uns les autres. Il faut vivre pour quelqu'un d'autre. Jésus l'a fait. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pourquoi ?» Exercer son ministère et donner sa vie, une rançon pour beaucoup. L'amour ne cherche point son propre intérêt. L'amour est toujours à la recherche de quelqu'un d'autre. C'est la clé de tout le concept de l'amour. C'est l'altruisme. Vous êtes patient avec les personnes. Vous êtes gentil avec les personnes. Vous n'êtes pas jaloux des autres. Vous n'êtes pas en colère contre eux. Vous n'êtes pas fâché avec les autres. Vous n'êtes pas provoqué par eux. Vous êtes tolérant. Vous êtes généreux. Vous êtes aimable. Vous n'êtes jamais impoli. Tout cela signifie que vous êtes désintéressé. Laissez-moi vous donner le dernier argument pour cette fois-ci, le numéro 8. Et c'est quelque chose que je viens de mentionner. L'amour ne s'irrite point. Du mot grec, nous obtenons notre mot français paroxysme, ce qui signifie une explosion soudaine. L'amour ne se fâche jamais. Vous êtes-vous déjà énervé? L'amour ne s'irrite jamais. L'amour n'est jamais prêt à se battre. Maintenant vous dites... « Mais attendez une minute, qu'en est-il de la juste indignation ?»« Bon, cela passe. Si vous nettoyez le temple, allez-y, tout va bien. Je veux dire que je suis sûr que Martin Luther était un peu fâché quand il a cloué sa thèse sur la porte de l'église de Wittenberg. Je suis pour. Et vous savez, vous ne pouvez pas vraiment vivre la vie chrétienne sans un peu de colère. Je veux dire que vous devez être en colère contre Satan. Vous devez être en colère contre la chair. » Et vous devez être en colère contre ce qui souille le monde de Dieu et la vérité de Dieu, n'est-ce pas? C'est bien, c'est la juste indignation, et je crois que chaque homme de Dieu doit avoir cela. Vous savez, nous en avons parlé lorsque j'étais au séminaire de Dallas. Je partageais avec des étudiants ce que le docteur Robinson m'avait dit, et je suis d'accord avec lui, qu'il n'avait jamais rencontré un bon pasteur ou un bon prédicateur de sa vie qui ne savait pas se battre, qui n'était pas combatif. J'ai dit, « Qu'est-ce que vous entendez par là ?» Avant d'être d'accord avec lui, il a dit ceci, et nous en avons parlé, et je suis d'accord. Je vais me servir de moi-même comme illustration. Je suis très compétitif. J'aime gagner. Je n'aime pas perdre. J'ai toujours été comme cela. J'ai passé une bonne partie de ma vie à perdre, mais je n'ai jamais aimé cela. J'aime gagner. Je suis compétitif. Il dit, « Un prédicateur qui n'est pas compétitif ne serait pas un bon prédicateur de la parole de Dieu, semaine après semaine. Vous savez, un chien aveugle va trébucher sur un os de temps en temps. Et de temps en temps, un prédicateur va prêcher un bon sermon. Vous trouvez une bonne vérité de temps en temps. Mais pour être bon semaine après semaine, il faut être un combattant. Vous devez être compétitif. Je veux dire que vous devez vous battre contre l'horloge. Vous devez vous battre contre votre propre ignorance. Vous devez combattre les difficultés dans le texte. Vous devez combattre les personnes qui voudraient prendre votre temps et vos priorités. Vous devez combattre votre propre paresse. Vous devez combattre votre propre péché. Je veux dire que c'est une guerre. Écoutez, le jour de la victoire, c'est le dimanche. Vous voulez savoir pourquoi je suis excité? Car la lutte est terminée, et il m'a fallu beaucoup de temps pour bien comprendre tout ce que je partage. Donc, je ne déprécie pas. Je ne déprécie pas le fait qu'il existe dans la vie chrétienne un besoin de s'énerver à propos de certaines choses et de demander un peu de temps pour accomplir la volonté de Dieu. Mais ce dont il parle ici, c'est que l'amour ne se fâche pas contre les autres. L'amour ne se fâche pas avec les personnes. Il ne s'énerve pas. La prochaine fois que vous vous fâchez à la maison et que vous vous énervez, souvenez-vous de ceci. La raison pour laquelle vous êtes en colère, c'est que vous n'aimez pas la personne pour laquelle vous êtes en colère. Parce que quand vous vous êtes fâché, vous avez dit ce que vous n'auriez pas dû dire et vous les avez blessés. Et la raison pour laquelle vous les avez blessés, c'est parce que vous vouliez les blesser. Et vous savez quoi? Vous avez décidé. Je veux faire à ma façon. Et je le veux comme je le veux. Si vous ne le faites pas comme je le veux, je vais vous faire mal. Vous voyez, vous dites des choses qui ne vont jamais être oubliées. Elles laissent des cicatrices. Vous faites des choses qui blessent. L'amour porte toutes les blessures. L'amour reçoit toutes les blessures. L'amour subit tout sans irritation et sans exaspération, à moins de défendre Dieu. Mais quand il s'agit de soi, on prend sur soi. Que se passe-t-il lorsqu'un mari s'en prend à sa femme et la dispute? Il la frappe. Cela arrive. Est-ce qu'il l'aime? Non, il ne l'aime pas. Il est plus préoccupé par ses désirs, par lui-même. Et si elle arrive au mauvais moment, boum! Un enfant fait quelque chose. Vous n'aimez pas cela. Qu'arrive-t-il à ce petit bébé frêle, battu? Qu'advient-il de ce gamin qui vient d'être frappé parce qu'il a fait quelque chose qui a empiété sur ce que vous pensiez vouloir pour vous? C'est la colère. La colère est le contraire de l'amour, car vous dites « c'est tellement important. Si tu fais quelque chose que je n'aime pas, tu vas recevoir. Ce n'est pas facile à gérer, mais je vous le dis. À moins qu'un chrétien n'apprenne à le faire, vous ne montrez jamais vraiment l'amour. Vous pouvez dire à votre mari que vous l'aimez tout le temps. Mais si tout ce que vous faites, c'est de vous mettre en colère contre lui, il aura du mal à s'en convaincre. C'est très dur. Vous pouvez dire à vos enfants que vous les aimez, mais si tout ce que vous faites, c'est de leur crier dessus, de vous irriter contre eux, de vous fâcher contre eux, ils vont se demander pourquoi ils ne peuvent rien faire qui puisse vous rendre heureux, et comment se fait-il que de temps en temps, vous n'êtes pas seulement heureux qu'ils soient heureux, mais vous êtes également mécontent du changement. L'amour est le seul remède contre l'irritabilité, car en dernière analyse, l'irritabilité, c'est simplement de l'égocentrisme. Jonathan Edwards, je terminerai par ceci, le troisième président de l'université de Princeton, l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire, a eu une fille qui se mettait facilement en colère. Un jeune homme est tombé amoureux de cette fille. Il ne savait pas, probablement, parce que, vous savez, quand vous faites la cour, la vie est toute rose. Mais le jeune homme est tombé amoureux et a demandé à son père de l'épouser. Alors il est venu et il a dit, « Docteur Edwards, je veux épouser votre fille. »« Vous ne pouvez pas la voir, » fut la réponse abrupte de Jonathan Edwards. « Mais je l'aime, » dit le jeune homme. « Vous ne pouvez toujours pas la voir, » a répété Edwards. « Mais elle m'aime, » répondit le jeune homme. « Vous ne pouvez toujours pas la voir. »« Pourquoi, » dit-il, « parce qu'elle n'est pas digne de vous. »« Mais, » dit-il, « elle est chrétienne, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Edwards. Mais la grâce de Dieu peut vivre avec des individus avec qui d'autres ne pourraient jamais vivre. Comme la dame qui a dit « Je perds mon sang-froid, mais tout est fini en une minute. » Il en est de même de la bombe atomique. Nous pourrions beaucoup parler de ce que la colère fait pour vous détruire. Mais ce que Paul dit ici, c'est simplement « Ce n'est pas aimé. » Demandez-vous, vous êtes chrétien, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs. Jésus est l'amour personnifié. Paul est un modèle d'amour. Suivez-vous ces modèles ou êtes-vous un chrétien comme les Corinthiens et en vous voyant le contraire de toutes ces qualités? Prions. Merci, Père, de nous avoir enseigné encore une fois ce matin. J'ai un long chemin à parcourir avec certains de ces attributs. Je veux que tu m'aides à être l'homme que tu veux que je sois, pour traiter ma femme, ma famille, mes amis et mon monde, mes voisins non sauvés, de la façon dont ils doivent être traités, de la façon dont Jésus les traiterait. Totalement par amour et par désintéressement. Et je le prie pour tous ces chers gens qui m'écoutent. Je te remercie pour tous ceux qui sont venus ce matin. Réponds à leurs besoins, Seigneur, de cette manière spéciale que tu peux faire. Au nom de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.